Now there's gravel in our voices. Glasses shattered from the fight.
Bonsoir à toutes et à tous et soyez les bienvenus pour ce Zoomcast numéro 10. Dans cette nouvelle formule interactive avec le chat qui est ouvert, auquel vous pouvez accéder bien sûr, soit en ayant donc l'application Edencast ou soit sur le site edencast.fr/live. Pour ce Zoomcast 10, je suis avec certains de mes acolytes, à commencer par Meb. Salut Meb.
Salut tout le monde, salut Kevin, et puis salut tout le monde, enfin les auditeurs, les web auditeurs. Et voilà, donc on est ravis de vous retrouver.
Juliette, salut Juliette.
Et bonsoir Kevin, et bonsoir à tous, toujours là, au rendez-vous, fin prête pour une bonne soirée en perspective, avec vous tous et les auditeurs.
N'est-ce pas, en plus on commence à l'heure, c'est bien.
Pour une fois.
pour une fois. Et nous avons également Monsieur Jean-Philippe de Linux avec la particule 2, notez bien s'il vous plaît.
Bonsoir Kevin, salut à tous.
Ouais, c'est la noblesse. C'est la noblesse du logiciel libre.
C'est honteux. N'écoutez pas, vous savez pas ce qui s'est passé en coulisses, mais c'est honteux.
Mais c'est un beau titre, assume-le Jean-Philippe.
Mais oui, parce que hors antenne, je lui ai dit de choisir entre le libriste, donc breton, ou de Linux, il a dit qu'il préférait être noble, donc voilà.
Je suis à Paris, donc la particule.
Avec la particule de pollution à Paris aussi, ouais,
c'est vrai. C'est la pollution en particules fines.
Ouais, c'est vrai. J'avais pas pensé à ça, du coup.
Moi non plus.
Comme vous le voyez, on est en forme.
En forme ce soir, nous sommes extrêmement en forme et on est ravis de vous retrouver.
Mais oui, ravis de vous retrouver pour cette...
Vous nous avez manqué pendant ce mois-ci, c'est pour ça qu'on est comme ça, on est au taquet.
On est euphorique.
Ouais, euphorique et tout. Un sondage aussi dans ce Zoomcast, hein, figurez-vous. On le fermera à la fin de ce Zoomcast d'ailleurs, donc vous avez encore le temps de voter si vous voulez. C'est sur edencast.fr/live. Et y a pas mal de personnes qui ont participé là déjà, Juliette.
Bah écoute, oui, il y a déjà 147 participants, du coup, à cette minute précise.
147, ça va.
Ça va.
On a dépassé celui de l'autre sondage, du coup.
Voilà, c'est déjà plus que l'autre fois au début du Zoomcast, donc peut-être qu'il y aura d'autres participants, mais...
Objectif 200, hein, parce que sinon on sait que c'est pas...
Ah bah oui.
Il y a des chiffres ronds chez les...
Je suis pas sûr.
Je suis un peu maniaque du chiffre, alors.
Je suis pas certain qu'on va attendre 200 d'ici...
on sait au moins 150, s'il vous plaît.
Ouais, on sait jamais.
Après le téléthon, voici le sondage au thon sur Edencast.
Sondage au thon, THOL. vous pouvez donc participer par le biais du chat, hein, comme je disais tout à l'heure, il est accessible sur edencast.fr/live ou avec l'application Edencast pour iPhone et iPad, bien sûr. Alors en fait, ce Zoomcast, il va s'articuler sous, on va dire, en trois parties. La première, donc on va revenir un petit peu sur le forum. On reviendra un petit peu sur quelques sujets qui ont marqué le forum ces dernières semaines. Ensuite, le focus du mois de décembre, qui sera consacré à la startup Invoxia, pour un produit qui s'appelle VoiceBridge. Alors VoiceBridge, en fait, c'est une, on va dire que c'est une passerelle qui permet de transformer n'importe quel terminal, n'importe quel smartphone en téléphone fixe. Alors vous me direz, c'est quoi le rapport avec nous ? Eh bien en fait c'est que souvent quand on a vous le savez mieux que moi sûrement, c'est que quand on a des téléphones fixes qu'on branche sur les téléphones opérateurs, sur les box opérateurs Free, Orange, tout ça, la majorité des téléphones fixes en fait ils ont pas de menu, enfin ils ont des menus mais nous on peut pas y avoir accès parce qu'ils sont pas vocalisés, donc si on a des appels en absence on peut pas les avoir, si on a des messages sur le répondeur on peut pas le savoir non plus. Donc voilà, donc ça va être le focus de ce mois-ci consacré au VoiceBridge et ça sera par l'intermédiaire du chef produit de la startup Invoxia qui s'appelle Stéphane et il est là. Salut Stéphane.
Salut Kevin, salut tout le monde.
Ça va bien ?
Ça va, très bien, merci.
T'es prêt à affronter cette heure de Zoomcast ?
Allez, là, c'est le début du marathon.
T'es au taquet ?
Ça y est, je suis à bloc.
En plus, comme on est à la fin de l'année. Voilà, on s'est dit quand même que ça serait sympa, en plus de vous en offrir un, en plus de vous en parler. Donc voilà, donc il y en aura un qui sera mis en jeu. On le mettra en jeu, hein, Stéphane.
On le mettra en jeu et ouais, d'ailleurs, il me semble que tu as préparé une petite question pour les auditeurs.
C'est ça, une question.
Donc, qui sera le but du jeu, c'est de bientôt écouter.
Voilà, une question qui sera en rapport avec ce qui va se dire dans cette heure. Donc, il y a que ceux qui vont écouter, qui pourront y jouer et qui pourront le gagner. Voilà. Donc,
Et donc c'est du coup, alors, attends, parce qu'il faut être
précis, c'est un produit qui est 99€, donc ça vous fait 99€ gratos. C'est bien, non?
Mais du coup, c'est quoi l'histoire? C'est que les gens vont jouer après le Zoomcast, c'est ça, du coup?
Vers la fin, en fait, je vais sûrement ouvrir un formulaire qui permettra de jouer, en fait.
Ah voilà, d'accord, parce que j'étais en train de me dire, d'accord.
Qui sera sur cette page.
Et après, c'est quoi pour ceux qui ont la bonne réponse? L'idée, c'est quoi? C'est le plus rapide? C'est le tirage au sort?
On prend tous les participants jouent. Ensuite, il y a un tirage au sort avec le site random.org. Au-delà de, après le replay, hein, ça sera dans 2 semaines ou un truc comme ça. Juste un peu avant Noël, je pense. Pour laisser la possibilité aux gens qui ont écouté le replay de jouer aussi, quand même. Hein, on n'est pas méchants. Et puis, au bout de 2 semaines, il y aura un tirage au sort pour désigner une seule personne. Quelles sont les tendances d'ailleurs de ce sondage pour commencer avant de...
Alors on va commencer par ça.
Avant d'aborder le forum.
Il y avait plusieurs possibilités. Donc il y a quelqu'un qui préfère aller donc avec son entourage. C'est majoritaire. Hein. 53%, c'est beaucoup. Alors que ceux qui font Internet sont seulement à 29% et ceux qui se font aider par les vendeurs sont à 18%. Résultat assez étonnant, je dois le dire.
Oui, si je peux me permettre, ça m'a vachement surprise. Je m'attendais pas du tout à ça.
Moi aussi, ça m'a surprise.
J'aurais plutôt pensé l'inverse, en fait.
Je me disais quand même, on est au 21e siècle, on est en 2016, on est plein à avoir des iPhones, des téléphones Android, des Galaxy, des... Bon. Voilà, et malgré ça, on est à plus de 70% de gens qui ignorent le numérique.
Moi, je pense que ça s'explique aussi peut-être par le fait que les applications, enfin les sites même de vente, sont pas tous malheureusement très très accessibles quand même. Faut reconnaître ce qui est. Au bout d'un moment, quand tu as vraiment beaucoup de choses dans ton panier, je trouve qu'après, au bout d'un moment, ça devient compliqué de s'y retrouver. Sans compter les bandeaux publicitaires qui se mêlent à tout ça, c'est peut-être pour ça, à mon avis, qu'il y a une sorte de un côté un peu réfractaire aux achats sur le net.
Et même
c'est
les
possible.
Applis,
c'est pas ça pourri. Encore.
Dit Sarah, notamment, sur le chat.
Après que les applis soient pourries, c'est une chose, mais après, il y a aussi les gens dans les magasins qui sont là pour nous aider, et je suis vachement surprise que ce soit la méthode la moins...
C'est plus ça, par contre, qui m'étonne.
La moins
moi,
privilégiée,
ouais. C'est plutôt ces deux aspects-là, moi, qui m'étonnent le plus, effectivement.
C'est quand même ça apporte une certaine autonomie de pouvoir compter sur les vendeurs, et il y en a de plus en plus qui jouent le jeu, donc c'est...
Ah, mais on va voir ce qu'ils en pensent sur le chat aussi, hein, il y a du monde. Première partie, donc, ce forum. Avec Juliette, qu'est-ce que tu as constaté? Est-ce que tu as remarqué des...
Eh bien, écoute, le forum...
Qu'est-ce qui s'est passé sur le forum ces dernières semaines?
Ben, je trouve qu'il a été quand même bien animé et puis j'ai tendance à dire qu'on voit que les fêtes approchent parce que justement la plupart des questions ont été liées à de nouveaux achats par les lecteurs d'Edencast qui ou avaient du mal à configurer leurs nouveaux produits comme les iPhones ou alors des choses qu'ils ne connaissaient pas sur l'Apple Watch ou des...
Ah oui, il y en a qui se sont achetés des Apple Watch apparemment.
Ouais, on est plusieurs apparemment.
Ouais, des nouveaux acheteurs.
Du coup, ça a même donné lieu à une nouvelle catégorie dans le forum qui est spécifique à l'Apple Watch et elle commence à être bien remplie finalement. Donc,
C'est vrai. Ah, il y a pas mal de choses sur l'Apple Watch.
Du coup, il y a eu pas mal d'échanges sur les applications, les cadrans, voilà.
Quelle est la meilleure manière d'optimiser sa batterie?
Exactement. Oui, parce qu'il y a plein de problèmes de batterie, que ce soit sur Apple Watch ou iPhone en ce moment, alors apparemment. Mais voilà, donc du coup, c'est bien de pouvoir s'entraider par rapport à ça. Et Windows qui est revenu en force apparemment.
Ah oui, c'est vrai.
Voilà,
c'est vrai que Windows, il s'est réveillé, Windows.
Il se réveille petit à petit, lui aussi. Il s'est dit, bon, je vais éviter de passer par la fenêtre. Et il s'est réveillé. Et bon,
c'est ça, oui.
Je sors.
Oui, tu peux sortir par la fenêtre.
Ouais. Mais non, mais du coup, voilà, des personnes aussi qui cherchent à acquérir des synthèses vocales sous Windows via NVDA. Donc on voit que c'est quand même une solution qui continue à être utilisée. Donc...
Ben ouais, NVDA pour expliquer à Stéphane, c'est un lecteur d'écran qui est gratuit sous Windows. Donc du coup, ça permet à des personnes déficientes visuelles d'avoir accès à l'ordinateur, de pouvoir naviguer sur Internet, de pouvoir faire plein de choses, sans pour autant dépenser plus de 1 600€ pour le
de licence.
Mmh.
Sauf que pour le coup, les voix de vraiment bonne qualité sont elles payantes. Et c'est pour ça que du coup, les utilisateurs cherchaient à avoir des conseils.
Moi, je trouve Windows 10 au top, dit Antoine sur le chat.
Windows 10.
que je dois vous rappeler quand même, les amis, hein, si vous regardez la dernière étude qui est sortie quand même par la Fédération des aveugles de France sur l'utilisation des lecteurs d'écran, enfin, les outils sur Windows restent quand même extrêmement majoritaires. Hein. Enfin, faut être très lucide. Au bout d'un moment, c'est pas surprenant que Windows se réveille. Windows est quand même utilisé encore par une écrasante majorité de personnes.
Ouais,
et
ouais.
Voilà, Joe se occupe encore plus de 50, enfin, presque 50% du marché. Et NVDA en occupe quasiment voilà. Et je pense que ça n'est pas surprenant non plus. Quoi.
Ça me surprend pas, mais je pense que dans 5 ans, on en reparlera.
Moi, si je peux me permettre, je pense que ce résultat est dû au fait que les gens ont souvent peur de changer, tu vois. Donc,
bien sûr.
Que ce soit pour Linux ou.
Il y a beaucoup de gens qui ont peur de l'inconnu.
Ou Apple d'ailleurs.
Ouais, c'est ça, c'est vrai.
Et puis il y a tous ceux qui ne travaillent pas forcément et qui n'ont peut-être pas forcément les moyens de s'acheter une licence à 1600 €. Les 50% dont on parle, je pense qu'il y en a une grande part. Ce sont des gens qui sont dans le milieu du travail avec un poste adapté, subventionné, etc. Et tous les autres, ben t'as pas le choix. C'est où tu fais tourner Jaws en version de démo. Et bon, si t'as des petites consultations à faire, ça peut faire le job. Ouais. Sinon, tu passes sur NVDA, ouais, effectivement.
Bien sûr.
Moi, je dis ça a du sens hein, que Windows soit très actif et qu'il y ait beaucoup de lecteurs d'écran, enfin les deux lecteurs d'écran principaux soient plébiscités. Déjà parce que, par exemple, NVDA, tu peux avoir une Surface Pro, par exemple, ou même, même une tablette tactile accessible avec NVDA ou Jaws, ou même un ordinateur à 400, 350, 450, 500 € avec NVDA, c'est faisable. Donc, tu n'arrives pas au niveau du Mac avec VoiceOver, tu vois. Donc, pour moi, c'est normal, quoi.
Bien sûr. Et puis, attention, Windows est quand même en train de développer, alors c'est, vous me direz, mieux vaut tard que jamais, mais quand même, il développe maintenant des systèmes de lecteurs d'écran, visiblement, qui sont sur une vraie voie d'amélioration.
Ah, mais oui.
Le narrateur,
c'est le narrateur. Le narrateur, il est en train de devenir un véritable lecteur d'écran, au point même qu'ils sont en train de travailler sur l'intégration du braille dans le narrateur.
Ouais. C'est pas rien, ça.
Ça, c'est quand même un grand virage de la part de Microsoft. Au même titre que maintenant, on va pouvoir installer Windows nous-mêmes, même si on voit pas, contrairement à maintenant.
Ah bah c'est pas trop tôt, j'ai envie de te dire.
Ah, ça fait juste 15 ans qu'on peut sur Linux.
Ça fait 15 ans qu'on peut sous Linux et ça fait plus de 5 ans qu'on peut le faire sur Mac.
Il y a Isée tout à l'heure qui disait sur le chat que
salut,
qu'elle serait bien passée sous Mac en fait, mais qu'elle trouvait ça cher. Mais c'est cher, oui et non, parce que finalement quand tu es sous Mac, tu n'as rien à racheter par la suite, donc ça se vaut en fait.
Bah, c'est-à-dire que pour une licence de Jaws, tu as un MacBook Pro à peu près.
T'as un MacBook
c'est
Pro
ça.
Avec un lecteur d'écran intégré.
Voilà.
Des voix fonctionnelles.
Avec des voix fonctionnelles de haute qualité donc, en plus. Et, mais bon, après, c'est un lecteur d'écran perfectible, on peut dire ce qu'on veut sur les produits Apple, qu'il y a des régressions parfois en termes d'accessibilité. Mais il faut pas oublier que VoiceOver, il est pas vieux en fait, hein. Il date de 2008, 2007, vraiment là où ça commençait vraiment à s'améliorer. Donc, on n'a pas comme Jaws ou NVDA qui en sont je sais pas combien d'années. Donc voilà, et puis c'est une boîte grand public Apple. Donc
et juste pour finir sur l'accessibilité de VoiceOver, c'est que effectivement VoiceOver, il est ce qu'il est, il fonctionne quand même très très bien avec bien sûr les programmes développés par Apple, et que s'il y a des problèmes de compatibilité ou d'inaccessibilité, c'est uniquement un petit peu la faute entre guillemets des développeurs tiers. Hein. Il faut bien le souligner ça. Apple n'est pas forcément responsable de tous les développeurs de la Terre, même si ils ont une charte.
C'est ce que j'avais publié. J'avais publié un article là-dessus d'ailleurs.
Voilà, donc c'est pas la faute d'Apple pour le coup. Mm.
Mais bon, après, on va pas les exonérer non plus. Hein. Parfois, il y a des bugs dans VoiceOver qui sont là et qui sont la faute d'Apple.
Oui, aussi, oui. Mais ceux-là, ils sont tellement gros que finalement, alors ils disparaissent, ils réapparaissent, mais bon.
Allez, on va passer à la suite, les amis. Ah oui, non, avant de partir sur le focus, je voulais juste souligner aussi, on avait ouvert il y avait un topic sur les aspirateurs robotisés et on a vu une belle description de Cédric, un des lecteurs des Demcast, qui nous avait un peu raconté son retour. Lui et Sarah, ils nous avaient parlé un petit peu de leur retour sur leur Roomba, sur deux modèles différents de Roomba et robotisés, enfin des aspirateurs robotisés, dont un qui est connecté et qui marche avec l'iPhone et tout. Donc ça vaut le coup de jeter un œil sur le forum, hein, si vous avez envie d'en savoir plus. C'est sur edencast.fr. Le sondage, est-ce qu'il a bougé ou il est toujours... Il est toujours.
Eh ben, écoute, on va actualiser pour le savoir, hein, c'est le mieux.
Sondage.
On a la réponse. Qui n'a donc que.
Deux votants supplémentaires.
Bien, 149.
On évolue.
Mais du coup, les résultats sont toujours identiques.
Ça monte en points. Il y a plus de participants, mais ça change pas en termes de.
Non. Ouais, c'est une tendance qui est.
La tendance. Ouais, je pense que d'ici le Zoomcast, la fin du Zoomcast, ça va pas s'inverser la tendance. Je crois.
Non, je pense pas. Il y a trop d'écart entre les trois propositions là pour que ça puisse s'inverser.
On passe donc au focus, les amis. Le focus de ce mois de décembre.
C'est parti,
qui est dédié à la société Invoxia, enfin la start-up Invoxia, avec Stéphane. Stéphane,
oui, exactement. Merci Kevin de m'avoir.
Et ben, de rien, écoute, c'est un plaisir de t'accueillir parmi nous.
Ouais. Effectivement, bah, du coup, ouais, ça fait déjà quelques mois qu'on est en discussion.
C'est ça. Et puis, c'était toi qui m'avais contacté d'ailleurs.
Ouais, exactement. Donc, c'est l'aboutissement. Ça me fait plaisir d'être là.
Alors, vois, c'est l'aboutissement de ce contact primaire, initial. Ah oui, parce qu'en fait, à l'époque, tu m'avais contacté pour aider en fait Invoxia à rendre accessible son application iPhone pour le Voice Bridge en fait.
C'est ça. Donc.
Parce que le but c'était aussi d'adresser ce produit à des personnes déficientes visuelles.
Bah, c'est le but, voilà. Et puis pour nous c'est pas toujours facile de tester en condition ou de connaître tous les problèmes spécifiques d'accessibilité. Donc avoir les avis d'un expert comme toi ont été utiles.
Plus les produits seront accessibles aux personnes déficientes visuelles, et mieux c'est. Ça me fait plaisir de l'avoir fait en tout cas. Alors, pour commencer, on va revenir un petit peu à la genèse de ce produit. D'où, qu'est-ce qui a donné envie à Invoxia de créer ce produit? Ça répondait à quel besoin, quel but, tu vois?
j'ai juste dire deux, trois mots sur Invoxia d'abord, puisque l'historique d'Invoxia, c'est une boîte qui a été fondée en 2010 et qui est spécialisée dans l'univers de la téléphonie et des produits audio, des produits connectés en audio. On fait toujours des produits professionnels, des téléphones voix sur IP. On a d'autres produits connectés toujours dédiés à l'audio. Toujours en restant dans cet univers d'audio, téléphonie, pour améliorer le quotidien des gens, alors que ce soit Monsieur Tout le Monde ou voir dans le monde professionnel, on en est venu à imaginer VoiceBridge. Donc, comme tu l'as dit, VoiceBridge c'est un pont qui fait. Les gens qui parlent anglais l'auront vite compris. C'est un pont qui fait un pont de voix. Qui fait le lien entre la ligne fixe et le téléphone mobile. Donc concrètement, c'est un petit boîtier qui se branche sur une ligne fixe, alors de maison. Il n'y a besoin de faire aucun changement à son installation existante. Et à partir de là, je vais pouvoir émettre ou recevoir des appels. Donc ça marche vraiment dans les deux sens. Ce n'est pas comme un renvoi d'appel. Ça marche vraiment dans les deux sens, donc je peux aussi faire des appels sortants, où que je sois, même de l'extérieur de la maison. Un des principaux intérêts du produit, c'est justement l'intégration avec iOS, CallKit et VoiceOver, quoi, l'univers iOS qui permet d'apporter une facilité d'utilisation en mode accessibilité.
Alors, est-ce que vous avez des questions, Jean-Philippe, t'as une question?
Alors, moi, je suis curieux parce ouais, je suis curieux parce que le boîtier. Alors, j'arrive à concevoir le fait que il communique avec la box pour récupérer les données qui arrivent sur la ligne fixe, mais j'arrive à comprendre le fait que les communications, on puisse les récupérer une fois qu'on est avec son téléphone portable à la maison. Mais comment ça se passe pour l'extérieur? Comment on fait le lien entre le boîtier et le téléphone si on est à 600 km de chez soi?
Alors, bonne question. Eh ben, si on est à 600 km de chez toi, concrètement, les communications vont passer par Internet. Donc, encryptées de bout en bout, et en fait, elles transitent juste par Internet. Donc, pour passer du smartphone au boîtier qui est chez nous, à côté de la prise téléphonique.
Qu'est-ce qui a motivé Invoxia à s'adresser aux personnes déficientes visuelles? Quel est le Comment est-ce que vous en êtes venu à ça?
Eh ben, on en est venu à ça à cause de plusieurs choses. Déjà, on avait alors il y a de temps en temps des personnes des personnes déficientes visuelles qui nous faisaient des remarques, des remontées. Il y a même des personnes qui font partie de nos bêta-testeurs qui sont déficients visuels et qui sont un peu aussi à l'origine de notre démarche. Et puis tout simplement, dans c'est une volonté, voilà, d'aider les gens. À la base, le produit, il est là pour aider les gens. Alors pour plein de raisons, pour rater aucun appel, pour ne pas avoir besoin de se lever, chercher son téléphone fixe dans la maison. Les gens qui l'auraient perdu entre deux coussins de canapé, et puis bah voilà, rendre accessible une technologie, donc qu'elle a ligne fixe aux personnes déficientes visuelles.
C'est vrai
Après.
que enfin, dans la majorité des cas, on a genre un téléphone fixe branché sur une box, et puis on voit pas ce qu'il y a écrit dessus, on sait pas si on a des appels manqués ou pas. Souvent les téléphones ils ont pas vocalisé les menus, donc c'est un peu si on n'a pas une personne voyante sous la main,
C'est ça, et
c'est un
puis
peu
après,
délicat.
en recherchant un peu sur Internet, on en est aussi vite arrivé à trouver les solutions de téléphone pour personnes déficientes visuelles qui sont généralement vraiment très chères et qui bon, sont quand même vachement moins pratiques qu'un smartphone.
Est-ce que du coup, donc, on connecte ce petit boîtier, donc théoriquement, on n'est même pas obligé d'avoir de téléphone fixe. En fait, le boîtier se suffit à lui-même.
Oui, c'est exactement ça.
Ah, c'est génial ça.
Le boîtier se branche donc sur la prise de téléphone. Donc que le téléphone arrive via la ligne classique de téléphone mural ou bien via une box internet, par exemple. Ça revient au même. Donc on branche le boîtier à la place ou en parallèle du téléphone fixe. Et après, voilà, il n'y a plus qu'à. La mise en route se fait en quelques minutes. 1 minute d'installation, 1 minute pour télécharger l'application, et le tour est joué.
Et donc depuis l'application, on a accès tant aux appels qu'aux contacts et qu'aux messages, c'est bien ça ou...
Oui, donc c'est exactement ça. Donc depuis l'appli, le comment dire, le carnet d'adresses, les contacts sont repris bien sûr depuis le carnet d'adresses du mobile.
D'accord.
Et donc voilà, ça permet en même temps de se débarrasser du calepin
Ouais, du
ou
coup, d'avoir
de
qu'un seul carnet unique,
ouais, c'est ça,
pour tout, en fait.
un carnet d'adresses qui est toujours à jour.
Typiquement, ça évite d'avoir le téléphone fixe dans une main et puis l'iPhone dans l'autre pour chercher le numéro.
Ouais.
Oui, c'est exactement ça.
Ah ouais, c'est bien
Alors,
galère.
ouais. Oui, il y a un truc que je trouve vraiment bien comme ça, de prime abord, c'est que finalement, si j'ai bien compris, c'est un produit, en fait, au départ, qui n'a pas été développé. Spécifiquement pour nous, c'est-à-dire que même les voyants peuvent avoir cette idée de se dire, bah tiens, moi aussi je veux ce boîtier et rendre exactement le même service, sauf que nous, via l'application que vous avez développée, et ben du coup, ça nous permet d'avoir accès à notre téléphone fixe en réalité, enfin au menu du téléphone fixe pour lesquels on n'a pas d'accès. Et je trouve ça malin. Je trouve ça bien. Et encore une fois, une invention qui profite à notre cécité, sans forcément avoir une entreprise qui veut faire du fric à tout prix sur le business, enfin sur le handicap du business, enfin le business du handicap business quoi.
Ouais, le handicap business.
Voilà, ça je trouve ça bien.
Est-ce qu'on a des questions sur le chat, Jean-Philippe?
Oui.
Ouais, attends, attends. Ouais, vas-y, Jean-Philippe, vas-y.
Ah, j'en prends une au hasard pour l'instant. Si je branche du coup le boîtier le téléphone, je le mets où en fait? Parce que du coup, c'est ou l'un ou l'autre en fait, ou on peut brancher les deux en même temps en fait?
C'est exactement ce que je voulais demander.
Ah bah tu vois, ça tombe bien.
Oui.
Du coup, on peut, en fait, on fait ce qu'on veut. Le boîtier, lui, il se comporte comme un téléphone fixe. Donc, en fait, ça revient à rajouter, par exemple, un téléphone dans son installation. En fait, c'est comme si on voulait rajouter un deuxième téléphone chez soi. Bah là, au lieu de rajouter un deuxième téléphone, on met VoiceBridge. Ou bien on peut remplacer son téléphone par VoiceBridge. On propose un dédoubleur donc de prise téléphonique qui bah voilà, comme ça on a encore plus le choix et puis il y a rien besoin d'acheter quoi.
Typiquement, c'est ce que j'ai fait avec celui qui est à la maison, le VoiceBridge qui est chez moi, j'ai mis un dédoubleur et du coup il y a le téléphone de la maison qui est branché et puis en même temps il y a VoiceBridge comme ça voilà.
Est-ce que le son est meilleur en passant par la voie IP comme ça, ou est-ce que c'est on aura exactement le même son qu'une communication 3G ou 4G dans son mobile? Est-ce que le son est amélioré?
Le son, donc en fait le son de la voie sur IP effectivement lui il permet d'atteindre des niveaux très hauts de qualité. Malheureusement là le goulot d'étranglement il reste sur la ligne fixe.
C'est ça.
Donc en fait on va être capé à la qualité de la ligne fixe en fait. Donc on retrouve la même qualité exactement, il n'y a pas de perte, mais voilà, après le goulot d'étranglement est là et on peut pas aller au-dessus.
Si les projets d'un opérateur, parce que je sais qu'Orange travaille là-dessus dans le sens d'améliorer la qualité du son des conversations téléphoniques, en tout cas en filaire. Donc ça veut dire que votre boîtier, il sera complètement, il reprendra exactement ces caractéristiques-là si ça venait à arriver.
Bah, effectivement, il y a des projets d'amélioration de l'audio donc en HD sur le filaire. Dans ce cas-là, oui, le VoiceBridge est déjà compatible. D'accord. Avec ça.
Alors là, nous, on parle d'iPhone, mais on peut aussi l'utiliser sur l'iPad, hein, Stéphane, ce VoiceBridge. Du coup, on peut utiliser la tablette en tant que téléphone aussi.
Ah, c'est génial, ça.
Effectivement, et donc l'appli est à la fois sur iOS, iPhone et tablette aussi. Oui.
Du coup, j'ai une petite question. Est-ce que du coup, si les appels sont redirigés sur l'iPhone, est-ce que du coup ils sont aussi redirigés sur l'Apple Watch?
Eh ben oui.
Ah oui, donc ça fonctionne exactement comme si on recevait un appel directement sur notre numéro mobile, sauf que c'est le fixe en fait.
Exactement.
Ah,
D'autant plus depuis CoolKit, donc depuis iOS 10, il y a eu de grosses améliorations à ce niveau-là, et donc effectivement, désormais que l'on reçoive un appel donc de sa ligne fixe sur le mobile ou que ce soit un appel mobile, en fait l'appel sera présenté quasiment de la même manière et on aura la même qualité en termes d'interface, donc les mêmes boutons, mêmes endroits, on n'est pas dépaysé.
Mais du coup, quand le téléphone sonne, on a quand même la possibilité de voir si c'est un appel qui provient de cette application ou du mobile ou...
Ouais, exactement. Donc, c'est pour ça que je disais, il sera quasiment présenté pareil.
D'accord.
C'est-à-dire qu'on voit, on va avoir une indication qui nous présente l'origine de l'appel. Donc là, ça va être VoiceBridge.
D'accord.
Et voilà. Et depuis iOS 10, il gère même très bien le double appel même, d'ailleurs. C'est excellent.
C'est quoi d'ailleurs la première version de l'iOS sur laquelle c'est compatible?
Alors, c'est compatible iOS 8, 9 et 10.
On pourrait imaginer d'utiliser sur son téléphone du bureau ou pas, ou ça marche que à la maison?
Non, ça marche vraiment partout. Partout, on peut retrouver une prise de téléphone. Donc, effectivement, on a des, On a pas mal d'utilisateurs qui sont des petits artisans, par exemple, donc qui sont tout le temps en mouvement. Ils sont dans leur bureau, dans leur atelier, dans la voiture. Les gens qui bougent, typiquement, c'est un produit très adapté pour eux.
Et typiquement, par exemple, on peut avoir, par exemple, nous, il y a beaucoup de personnes déficientes visuelles qui sont kinés. On peut, par exemple, imaginer qu'un kiné, par exemple, il mette un VoiceBridge dans son cabinet et qu'il le connecte à son iPhone pour prendre ses appels, pour gérer ses communications, ses rendez-vous.
Tout à fait. On peut imaginer ça.
Du coup, ça ne dépend pas, a fortiori, du pays, en fait. C'est-à-dire, même en Belgique, par exemple, on pourrait l'utiliser. C'est-à-dire que, fondamentalement, si le format des prises téléphoniques est le même qu'en France, on pourrait tout à fait imaginer que ça fonctionne dans n'importe quel autre pays, du coup.
Oui, tout à fait. Ouais, on peut l'utiliser. Donc nous, on le vend dans toute l'Europe et en Amérique du Nord. Donc effectivement, il est fourni dans la boîte. Il y a quelques adaptateurs pour rendre le produit compatible dans tous les pays. Et oui, il y a aucun problème. On a des utilisateurs en Belgique, en Suisse, en Allemagne, en France, au Canada.
Ça veut dire aussi qu'il faut avoir sur son fixe, j'imagine, qu'il faut avoir un forfait qui permette de l'illimiter aussi sur les appels sur mobile, etc., etc. Non, enfin c'est.
Ah bah forcément, il faut un forfait qui va bien sur son téléphone fixe. Il suffit de savoir ce qu'on a comme forfait et dans certains cas, dans bien des cas, on peut même faire des économies avec VoiceBridge puisque on peut l'utiliser de l'étranger. On peut s'en servir quand on est en vacances. On peut s'en servir. J'habite en France par exemple. Je pars en vacances. De l'autre côté de la frontière, j'aurais pas besoin d'acheter une carte SIM locale.
C'est génial ça.
De faire
voilà, ou même ceux qui
de
vont
prendre du crédit Skype par exemple.
Même ceux qui vont par exemple quelqu'un qui va au Maghreb pendant les vacances d'été, il met un VoiceBridge sur son téléphone en France et puis avec son iPhone, il téléphone directement de la France vers la France.
Enfin, il a juste besoin d'avoir de l'internet sur son forfait mobile.
Ouais, ou qu'il soit connecté à un café, d'un cybercafé, un wifi ou un truc comme ça, quoi.
Ouais, c'est ça exactement, un McDo ou un point d'accès wifi.
Ah, c'est mais par contre, c'est vrai que c'est intéressant. Je trouve le montage est assez difficile à comprendre. Je pense que c'est vrai que ça remonte beaucoup du chat, cette difficulté de comprendre comment ça. Parce que du coup, ça veut dire si on fait ça, oui, du Maroc par exemple. Le forfait internet, ça reste celui du téléphone mobile, par contre. Donc, du coup, lui, les datas, on doit quand même.
La data, oui. Donc, si on utilise la data mobile en 3G, 4G, effectivement, là, on risque de payer ou ça dépend de son abonnement. À l'hôtel.
T'as des points d'accès Wi-Fi.
Au Starbucks, ou point d'accès Wi-Fi, oui, n'importe lequel.
Des points d'accès Wi-Fi partout.
Là, c'est totalement gratuit. D'accord. D'ailleurs, il y a aucun abonnement d'aucune sorte avec VoiceBridge.
Du coup, on achète le produit et puis voilà, c'est fini, on peut l'utiliser de façon illimitée, en gros.
Oui, c'est ça, il y a aucun abonnement.
Il n'y a pas d'abonnement, il n'y a rien.
Il y a un site qui explique un peu tout ça, qui permet un peu de.
Alors, il y a notre site internet, donc c'est www.invoxia.com. Donc, Invoxia, c'est Invoxia. Donc, il y aura effectivement, vous verrez nos autres produits et donc.
De toute façon, je mettrai le lien vers le site quand je mettrai en ligne le replay après.
Oui, ouais, je pense que c'est plus simple.
Ouais. Ouais.
Et donc, ça passe par une application spécifique. Hein. C'est pas l'application maison qui permet d'utiliser des objets connectés à la maison, quoi. C'est une application dédiée à cet usage.
C'est ça. Oui, c'est l'application qui s'appelle VoiceBridge.
Ouais.
Le produit, on rappelle qu'il est à 99€. En vente sur pas mal de sur différentes plateformes, puis sur invoxia.fr on peut l'avoir aussi. Hein. On peut
l'acheter. Il est en vente ouais sur invoxia.fr, il est sur Amazon.
Sur Amazon aussi ouais. Et puis qu'est-ce qu'on il y avait d'autres réactions ou pas sur le chat non?
Bah les gens réagissent surtout au fait que tout ça implique à chaque fois de la data, donc ça perturbe certaines personnes qui disent mais dans tous les cas il faut de la data, alors certes il y a le wifi mais voilà, l'idée c'est si on est en parfaite mobilité c'est quand même bien la 3G ou la 4G qui fera l'affaire, mais
c'est vrai mais ça consomme pas beaucoup hein, en termes de data hein. C'est, je sais pas. C'est un flux qui est relativement compressé.
C'est ça, donc ça consomme vraiment largement moins qu'une vidéo ou que les usages aujourd'hui d'internet.
C'est que de la voix.
Que de la voix.
Que de la voix.
Mais
c'est vraiment comparable aux autres applis de voix, donc que sont Skype ou les autres protagonistes.
Ouais, c'est ça en fait.
Ouais. Donc c'est vraiment comparable. C'est de l'ordre de à peu près de plusieurs minutes par mégaoctet.
C'est comme si on utilisait WhatsApp ou Messenger.
C'est vraiment comparable. On avait fait les tests et on est vraiment dans les mêmes proportions.
Par exemple, Kevin, toi qui as testé, c'est facile à installer du coup cet appareil quand on est déficient visuel, qu'on n'est pas non plus technophile avancé, mais qu'on est standard, j'ai envie de dire.
Bah écoute, pour une personne déficiente visuelle, tu l'installes entre une et deux minutes. En fait, tu le branches correctement, tu l'alimentes, tu le branches sur le téléphone, sur la partie box de l'entrée téléphonie de la box, et tu télécharges l'application sur l'App Store. Donc VoiceBridge, tu la lances avec VoiceOver, tout est accessible. Donc VoiceOver, en fait VoiceBridge, il va rechercher la passerelle tout seul. Donc en général, il va la trouver quoi. S'il y a pas de problème de ce secteur ou quoi que ce soit, il va la trouver et il va la configurer lui-même. Tout. Après c'est parti. Il faut autoriser VoiceBridge à avoir accès à tes contacts aussi, bien sûr.
Oui, bien sûr, il y a aussi l'autorisation d'avoir accès au micro, mais bon, ça fait...
c'est
moins compréhensible.
C'est logique.
Non, mais c'est vachement bien, moi, je trouve l'idée est vraiment bien. Moi, je suis séduit parce que ça permet surtout d'avoir accès à tous ses contacts via son iPhone pour appeler...
Carrément.
C'est ça qui est bien, finalement. C'est que tu as accès au menu de ton fixe via l'application.
Exactement.
Donc, c'est ça qui est intéressant.
Et c'est ça qui fait que je voulais qu'on en parle dans ce Zoomcast de décembre, parce que je trouve que c'est quand même un vrai plus pour les personnes déficientes visuelles d'avoir accès à l'équivalent d'un téléphone fixe sur un iPhone ou sur un téléphone Android ou sur une tablette de manière accessible. C'est ça l'intérêt en vérité pour nous.
Android plus, aussi du coup, parce qu'on n'a pas du tout parlé d'Android en fait, donc ça marche aussi sur Android.
Ouais. Ouais. Ça marche.
Alors,
évident, c'est pour ça que je me permets de poser la question.
Effectivement. Donc en fait ça marche sur Android. Il y a les mêmes fonctionnalités sont disponibles et après on bosse à peu près dans la même optique que sur iOS mais avec Talkback sur Android.
On n'en est pas encore à l'accessibilité de VoiceOver avec VoiceBridge, mais bon voilà.
Ouais, on n'est pas là effectivement c'est surtout la plateforme qui
fonctionne différemment.
Qui n'en est pas au même point quoi. Disons qu'Apple, ils ont commencé comme dit un peu plus tôt, ça fait presque 10 ans qu'ils sont sur le créneau. Mais sinon, en tout cas, l'appli est dispo sur iOS et sur Android avec les mêmes fonctionnalités. On n'a pas dit, mais bien sûr, l'appli est gratuite.
On rappelle l'adresse du site, hein, donc c'est www.invoxia, I-N comme Noémie, V comme Valérie, O-X comme Xavier, I-A.fr. Voilà. Donc, écoute, merci Stéphane, pour nous avoir accordé de ton temps pour ce produit. Et de toute façon, tu restes avec nous pour la suite.
merci, merci à tous. Merci Kevin d'avoir testé. Et puis, merci à tous, Juliette, Meb, Jean-Philippe.
Ah bah, merci à toi, c'était vachement intéressant comme découverte.
Ceci dit, ça pourrait faire l'objet d'un podcast. Hein. Je dis ça, je dis rien. Hein.
Ça a été demandé sur le forum, sur le chat, je vous le dis. Il y a eu beaucoup de gens qui disent un podcast. Hein.
Un podcast avec VoiceBridge. Peut-être que j'en ferai un. Tiens. Je pourrais en faire un, à la limite. C'est vrai. Tu restes avec nous, Stéphane, alors?
Ben, je reste là, ouais.
Ok. On va revenir un petit peu sur le sondage. Là. Est-ce qu'il a évolué, ce sondage, ou pas? Le sondage, d'ailleurs, que vous pouvez toujours participer avant qu'on le ferme à la fin du Zoomcast, c'est sur edencast.fr/live. L-I-V-E. Et est-ce que les tendances ont changé?
Tendanciellement, non. Il y a eu 151 participations maintenant. Tendanciellement, non, c'est la même chose.
151.
Mais les pourcentages sont toujours identiques, oui, exactement identiques.
C'est vrai.
Ouais. Je trouve qu'ils ont augmenté, moi, mais bon, mais par contre, les tendances sont les mêmes, quoi. C'est, oui, oui. Il y a 28% maintenant pour les courses accompagnées, non, pardon, c'était les courses en ligne.
Course en ligne.
Et le vendeur, 19%. Mais ouais, donc, bon, c'est proportionnel, quoi. Ça, c'est
pas c'était déjà le cas tout à l'heure.
Je pense que là, les tendances, elles sont figées, là, à mon avis.
Oui. Je pense, ouais.
Ça m'est déjà arrivé de faire des courses en ligne et de m'imaginer une bouteille, enfin, un bocal ou une bouteille de quelque chose. Et en fait, elle est pas du tout comme ça.
Non.
Surprise. Bah,
c'est ça, puis l'avantage quand tu fais tes courses toi-même, du coup, c'est que quand tu rentres chez toi, tu gagnes du temps pour les ranger, parce que quand ça arrive en ligne, tu te dis, bon, c'est quoi cette boîte? Tu dois trouver un moyen de savoir ce que c'est. C'est plus compliqué.
Et les gens du chat, je vous rappelle que le chat, il est ouvert, hein, que vous pouvez donc y accéder. Si vous avez un compte membre, vous pouvez y accéder via le site edencast.fr/live. Il est ouvert, là, pour l'instant, comme le sondage. Et puis, si vous avez l'application mobile, c'est encore plus facile, puisqu'il suffit d'appuyer sur salon de discussion événementielle. Qu'est-ce qu'il raconte sur le chat par rapport au sondage? Rien de spécial?
Bah, ils sont tous unanimes en disant que ça n'a absolument rien de surprenant tout ça. Les sites sont pas suffisamment accessibles, les applis non plus. Enfin, les gens trouvent que globalement, c'est tout à fait compréhensible que le net n'ait pas plus de succès, étant donné les conditions actuelles de e-commerce.
Ouais, mais moi j'aurais cru quand même qu'en 2016, fin 2016, on est à l'ère du numérique, on ne jure que par le numérique dans tout plein de choses, alors... Donc je me suis dit, bon, peut-être que...
Mais tu sais, il y a un sondage qui est sorti il n'y a pas longtemps sur les achats de Noël, et donc en fait, ça révélait qu'en fait, il n'y avait que 29% de gens qui faisaient leurs achats sur Internet. C'est quand même, ça reflète encore une fois un peu ce qui ressort de notre sondage aussi, hein. Ça se tient, quoi. Tu vois, 30% des gens achètent via Internet pour les cadeaux de Noël, quoi. C'est quand même pas énorme.
C'est pas énorme quand même.
Non, et puis entre les fraudes à la carte bleue qui malheureusement continuent à hanter un peu l'esprit de tout le monde, même
c'est
à mon sens beaucoup moins vrai.
Il y en a moins maintenant, mais...
Alors, faut aussi que vous sachiez, au cas où cette info est passée au travers, que la Poste est en grève, vous voyez, ça c'est vachement rassurant quand on fait les courses.
À la fin, pour Noël en plus. Bon, on va revenir aux actualités, donc la dernière partie de ce Zoomcast... on va commencer par Jean-Philippe de Linux avec le
eh ben voyons.
La dernière fois on a commencé par Meb, alors pour une fois je tourne, tu vois.
Qu'est-ce que je voulais vous raconter, moi je voulais vous raconter la naissance ou l'histoire un peu tumultueuse, et je vais m'éviter de faire des jugements de bonheur avant la fin, promis. Si Jean-Philippe vous me tapez
dessus, comme on est en retard, ça dure pas très longtemps, s'il te plaît.
Promis. La naissance d'une distribution, d'une association qui s'appelle AccessDV Linux, pour ceux qui n'auraient pas vu passer ce truc-là. C'est une distribution qui se dit et se veut adaptée aux déficients visuels. Alors, elle est toute neuve, hein, en fait. Elle est toute neuve sans l'être tout à fait, puisque avant, elle s'appelait AndyDV Linux. C'était un dérivé, en tout cas, qui se présentait comme tel de Andy Linux.
En gros, si tu sais pas que c'est pour les déficients visuels, c'est que t'es à l'ouest, quoi.
Ouais, c'est ça. Mais alors après, l'histoire, c'est que ce qu'on a découvert avec le temps, c'est qu'en réalité, je pense que ce projet est né en pompant un peu le nom de Andy Linux, ce qui n'a pas du tout plu aux auteurs initiaux de cette distribution. Et c'est pour ça qu'ils se sont démarqués en s'appelant désormais AccessDV Linux. Alors, on en parle parce que, mine de rien, ils ont fait une campagne de financement participatif, de crowdfunding, n'est-ce pas, qui leur a rapporté 5 000 €. L'objectif, c'était d'implémenter la couche confort de lecture sur leur site internet. Voilà. Donc, ils ont fait ça. Leur distribution, c'est quoi le concept? Alors, je vais dire ce qu'ils en disent, en tout cas. Ils indiquent que cette distribution contient une machine à lire véritable gratuite, hein, donc un OCR, qu'elle contient une synthèse vocale, un retour vocal comme on a l'habitude d'avoir. C'est, enfin, en gros, c'est speak, hein, puisque c'est gratuit, ça peut difficilement être autre chose qui speak. Et ils expliquent aussi que c'est une distribution qui se veut, effectivement, être facile d'utilisation. Donc, évidemment, il y a des raccourcis clavier. Ça ressemble un petit peu à ce qu'on pourrait connaître sous Windows avec Sonorel ou avec Speaker, par exemple. Donc, c'est des usages extrêmement simplifiés de l'appréhension d'un environnement informatique avec des tutoriels, de la documentation. Et voilà, c'est réputé pour être simplifié, pour être plus simple et construit avec des déficients visuels, visiblement, de ce que dit le site. Et ils ont donc constitué une association autour de ça. Alors, je vous épargne le nom parce que d'abord, je m'en souviens plus et qu'il est un peu, il veut pas dire grand chose. Mais voilà, la distribution, c'est ça qui est important. Leur projet principal, c'est AccessDV Linux. N'hésitez pas à le tester. Je crois qu'ils ont enfin mis une image en ligne, ce qui n'était pas le cas jusqu'à récemment. Mais voilà, ils ont enfin une image en ligne. Et voilà, c'est un nouveau venu dans les distributions Linux.
Juliette, c'est quoi ton actu à toi ?
Mon actu à moi, elle concerne VoxyWeb, en fait. Parce que il a été dit lors de la 5e session des journées d'études sur les nouvelles technologies organisée par la Fédération des aveugles de France, que VoxyWeb allait commercialiser un appareil, en fait, permettant d'avoir toute l'interface de VoxyWeb sur sa télé. En fait, c'est sous forme d'une clé avec un port HDMI.
C'est VoxyTV.
Ouais, VoxyTV, voilà. Qu'on connecte donc à la télé et on a une télécommande pour pouvoir contrôler tout cela et avoir tous les services de VoxyWeb sur sa télé. Donc apparemment l'appareil serait commercialisé à 300 euros sans abonnement et à 400 avec abonnement.
Oh la vache. Ah ça va. Bah, il s'embête pas là.
Mais là c'est un produit qui est packagé, c'est tout d'un coup quoi. Tu cherches pas à comprendre quoi. Tu prends ton truc, tu l'installes,
voilà, tu l'allumes. Ouais, mais bon.
C'est pas comme sur VoxyWeb, c'est pas comme sur l'iPhone ou.
Tu vas faire quand même.
Franchement, je trouve que ce produit a beaucoup d'avenir pour le coup parce que alors autant le site, alors que moi je trouve qu'il est bien et qu'il propose de vrais services innovants, mais bon, il restera quand même toujours en concurrence dans l'esprit de beaucoup de gens avec le localisateur et c'est logique. Autant le fait de mettre ça sur un dispositif de télé, là par contre, je trouve que ça peut vraiment avoir du sens parce que on peut accéder du coup à ces services sans avoir d'ordinateur, quoi. Et ça,
c'est
vraiment vraiment nouveau et c'est voilà, pour et mettre
puis,
le voilà.
Et puis même pour les seniors, tout ça. Enfin,
c'est ça. Voilà. C'est ça.
Et puis même pour les personnes malvoyantes aussi, ça te permet d'avoir un écran beaucoup plus grand finalement.
J'ai testé pour tout vous dire parce qu'ils l'ont présenté en avant-première à Autonomique Paris en 2016.
Fabien, il m'en avait parlé l'année dernière en 2015, tu vois.
Ouais. Et c'est vraiment un produit, j'imagine bien pour des contextes personnes âgées, des choses comme ça, ça peut être vraiment très très bien.
Et puis c'est un terminal qui est sous Android en plus, la clé HDMI, donc oui. Potentiellement ça peut peut-être évoluer avec des voix, peut-être qu'on peut mettre les voix qu'on veut. Enfin, tu vois.
Fonctionne super bien VoxyTV, dit Chris, alors il a dû déjà le tester lui aussi en avant-première.
Il a dû le tester et c'est vrai que le prix, bon voilà, c'est sûr que c'est cher, mais il y a quand même ça répond à des besoins quand même en fait. Finalement, ce genre de
Après,
mais est-ce que VoxyWeb n'a pas aussi son avenir sur l'Apple TV ?
C'est ce que j'allais
poser la question aussi.
Tu m'as enlevé de la bouche même. J'allais dire, mais sur l'Apple TV, justement, il devrait y être.
Ça serait quand même pas mal.
Pour faire concurrence à Molotov TV qui n'est pas accessible.
Oui. Ah si, c'est accessible quand même.
Non, mais je parle sur iPad et tout.
Auquel cas, leur propre appareil ne servirait plus à grand-chose finalement.
Bah si, ça peut être complémentaire.
Si,
pour tous les gens qui ont un Apple TV qui ne veulent pas avoir un boîtier spécifique pour VoxyWeb, tu vois. Meb, à toi ton actu.
Alors mon actu, en fait, c'est encore une fois, je vais parler de plugins parce que vous savez que moi je suis plus, c'est plus ma tasse de thé, hein, tout ça.
Ouais, toi, les plugins, les fans de musique, tout ça.
Les bibliothèques
les
de son,
la MRO,
voilà, tout ça, voilà. Et en fait, je voulais vous parler d'une société, enfin d'un éditeur qui s'appelle Isotope, une boîte qui a développé un plugin. Alors basé sur ce qu'ils disent sur une forme d'intelligence comme ça, mais musicale. Et ce logiciel s'appelle, ce plugin s'appelle Neutron, Isotope et Neutron. Et donc Neutron, en fait, c'est un plugin que vous installez, alors que ce soit sur Pro Tools, sur Logic, peu importe. Et en fait, vous lui envoyez toutes vos pistes qui vous ont servi à faire votre morceau. Alors il peut y avoir une guitare, une batterie, un sax, des violons, enfin. Ce qu'on veut, on lui indique simplement le type d'instrument qu'on a utilisé. Donc, on a une boîte de dialogue dans laquelle on va choisir pour piste numéro 1, j'ai mis une batterie, une piste 2, j'ai mis une basse, etc. Le logiciel, en fait, il va mouliner tout ça et il va vous proposer un mix tout fait. C'est-à-dire, alors quand je dis un mix, pas tout quand même, hein, et il va se charger de régler pour vous le compresseur. L'exciter plus les équalisations. Parce que, en fonction des instruments, bah, l'équalisation, elle sera pas forcément la même que pour une batterie, etc. Donc lui, il est capable, en fait, de scanner, d'analyser ce qui a été joué, ce qui a été fait sur vos pistes, et de dire, bah voilà, moi, je te propose, cette version avec le taux de compression qui va bien pour la batterie, le taux de compression qui va bien pour la basse, et ainsi de suite. Et comme ça, il vous propose, alors je crois que c'est 3 ou 4 combinaisons, et puis vous choisissez celle qui vous correspond le mieux. Alors bien sûr, on peut l'ignorer, hein, on peut même peaufiner, on peut même rentrer après coup dans le compresseur, dans l'équaliseur, et modifier à la main, bien sûr, les paramètres. Alors ça c'est une aide au mixage. C'est une aide au mixage parce que dans le mixage, ce qui est vraiment le plus difficile, c'est d'arriver à régler ce genre de valeurs, hein, de compression, d'équalisation. C'est pas toujours évident. Et là, le logiciel le fait pour vous. Et vraiment, en se basant sur une forme d'intelligence comme ça, qui est capable d'analyser en temps réel et très très vite une quinzaine, une vingtaine, une trentaine de pistes. C'est assez bluffant.
L'intelligence artificielle s'invite dans la musique assistée par ordinateur, en
exactement.
Gros.
Exactement. Et c'est vrai que c'est la partie du mix qui est la plus délicate en plus, hein, parce que le mixage, régler des panoramiques et puis des volumes, ça à la limite c'est à portée de beaucoup de gens. Par contre, faire que la compression d'une piste ne n'altère pas sur une compression d'une autre piste, ou bien une équalisation où certaines fréquences vont mordre sur d'autres tranches de fréquences, etc., là c'est beaucoup moins évident, et ce logiciel-là permet justement d'éviter ces erreurs. Et c'est déjà une préparation au mastering en plus. Donc, alors au niveau accessibilité, je sais pas du tout ce que ça donne, mais j'espère avoir une licence de test et voir comment VoiceOver se comporte. Enfin, en tout cas, comment Logic peut procéder.
Comment on va interagir, comment il interagit avec cette intelligence.
C'est ça. Comment
la mettre au service
sur quels paramètres on peut influer en réalité, et surtout l'étape la première étape, c'est surtout d'expliquer au logiciel, donc à Neutron, quelle piste il doit aller analyser en fait, et lui dire voilà, il y a ça dans cette piste, il y a ça dans cette piste, et tout ça je serais curieux de voir au niveau accessibilité ce qui est possible et quelle adaptation serait possible pour que cela fonctionne complètement.
Bah,
je vous tiens au courant.
Du coup, tu pourrais nous en reparler.
J'aurai
bientôt
l'occasion d'en reparler, je pense, dans l'année 2017. Ouais.
En 2017.
Et c'est un plugin, du coup, c'est ça?
C'est un plugin, ouais. C'est un plugin. Donc,
et du coup, il va sur quoi, le plugin? C'est ça que j'aimerais comprendre. Du
alors,
coup, c'est quel logiciel, du coup, qui
alors, le plugin, tu peux l'installer, en fait, aussi bien sur Logic Pro X, donc le logiciel de séquenceur de chez Apple, ou bien sur Pro Tools, peu importe. Donc en fait, un plugin finalement, c'est quoi? C'est une sorte de programme, de logiciel qui va faire le pont entre ta station de travail qui va te permettre de composer et le moteur audio du Mac ou du PC. Donc j'ai trouvé l'info vraiment intéressante, et puis Isotope, c'est quand même une boîte sérieuse et qui fait vraiment dans les plugins de traitement de son, vraiment. Ils font pas de banque de son, ils font du traitement de son, donc aussi bien les compresseurs, les exciters, les equalizers, tout. Voilà, donc je vous tiens au jus parce que j'ai hâte de le voir fonctionner déjà musicalement pour voir ce que ça donne, et après je verrai au niveau de l'accessibilité ce qui est possible de faire ou pas.
Un dernier coup d'œil sur le sondage. Où est-ce qu'il en est, ce sondage, avant que je ferme la boutique?
Allez, un petit coup d'œil.
Eh bien, le sondage.
Le sondage,
le fameux sondage.
154 personnes, mes amis.
150. Allez, on peut arriver à 155 avant que je le ferme. Je voudrais du impair.
Oh, c'est un chiffre impair.
Espérons.
Un chiffre impair, s'il vous plaît.
Mon chien.
La deuxième proposition, à savoir les courses en ligne, a gagné 1%.
Ah. Ouais, c'est remonté un petit peu.
Bon,
elle est quand même loin derrière la première, hein, mais.
Alors, est-ce qu'on va remonter à 55, est-ce qu'on va remonter à 155, ou est-ce qu'on va se fermer à 154? C'est la question.
Je suis pas sûr que ça change la donne au final, mais.
Mais ouais, mais j'aimerais bien avoir un 5.
Ça fera un chiffre rond.
Je voudrais avoir 55.
Bon, Stéphane, t'as voté ou pas? Sinon, faut
Stéphane, que tu... est-ce qu'il y en a un sur le chat qui a déjà voté ou pas là? Faites-le, aidez-moi s'il vous plaît.
Moi, j'ai déjà voté.
C'est là qu'on va se
retrouver sur vous. Ben moi aussi, et puis je peux pas faire voter mon chien.
C'est là qu'on va se retrouver à 156. Mais non, mais.
Que lui, en plus, il va vouloir préférer Internet. Il est tellement feignant, celui-là, qu'il va se dire c'est tellement mieux Internet.
Bah oui, parce qu'il voudra pas sortir, donc.
Bah oui.
Il voudra pas t'emmener.
Ah non.
Si. On est à 156.
Ah bah voilà.
Ah
mince.
Pourtant j'ai réactualisé, j'ai pas vu le 155.
Bon bah je me suis fait voilà, je me suis fait.
Bon
voilà,
bah allez, passons bon. À 160 maintenant.
Non, c'est trop loin 160, on va partir. C'est loin 160, d'accord. Non mais bon bah la tendance quand même elle est voilà.
Ouais, mais finalement du coup la première proposition a perdu 2%. 1% pardon, 1%.
Excuse-moi. Ah quand même. Il y a une question. Eh ben oui, la question finalement. Cette question. Et en fait, la question, elle va, enfin, vous pourrez jouer dès que j'aurai mis le formulaire après, juste un peu après là, parce que vu que je suis en train de tout surveiller en même temps là dans la radio, c'est pas très faisable. Mais je vais le mettre juste après, donc vous pourrez jouer. Bah, l'avantage, c'est que ceux qui ont écouté l'émission maintenant, ils pourront jouer avant que bah, le replay soit dispo. Donc voilà, c'est aussi l'avantage pour le coup. Et puis donc la question, ça sera quel est le nom de la nouvelle distribution dont a parlé Jean-Philippe tout à l'heure dans son actualité. Et ben si vous vous en souvenez, vous avez une chance de trouver la réponse à ce jeu. Donc ceux qui ont écouté, ceux qui ont été attentifs, vous pourrez répondre bah en fait quand le Zoomcast sera terminé, je vais le mettre ouais dans 10-15 minutes max quoi, un truc comme ça. Faudra aller sur edencast.fr/live pour répondre. Donc à bientôt, et puis bah nous on se quitte avec un peu de musique, je vous laisse deviner ce que c'est, j'ai la flemme de le dire, voilà. Et puis à bientôt bien sûr.
Salut à tous.
À bientôt. I know I could be anyone, but I don't know who I should be. I'm heading nowhere fast, but God knows that I've tried everything. It's been a long way down, such a long way down. So hold on, honey, don't you let me down.